Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur du Lotus dans cette saison spéciale Femmes inspirantes. Aujourd'hui, c'est le dernier volet de notre triptyque avec Paula Van Grut. Et dans cet épisode, elle va nous parler de sa foi, de la foi, du chemin qu'elle a parcouru tout au long de sa vie avec la foi et la place qu'elle occupe aujourd'hui dans son quotidien. Je vous souhaite une merveilleuse écoute.
Hello Paula.
Coucou Adi.
Merci encore de m'accueillir ici dans ton joli cabinet.
Merci.
Et aujourd'hui, j'ai une grande question pour toi. Qu'est-ce que c'est la foi? Comment tu vis ta foi? Comment au travers de l'astrologie, de ton parcours de vie, tu vis ta foi? Et quel est ton chemin? Quelle est ta vision de la foi?
Effectivement, c'est une vaste question. La foi. En fait, je dirais que dans mon cas, je pars de très loin par rapport à ces questions-là. Parce que si je m'observe, disons, de un peu, si j'essaie de sortir de moi pour essayer de me voir un peu, j'ai un tempérament effectivement qui parfois peut être réalisto-pessimiste. Je suis pas exactement la personne... bout en train, tout va bien se passer, pas du tout en fait. J'ai parfois un regard et même parfois je me dis punaise, ça aurait été tellement mieux si j'étais un peu plus optimiste en fait. Je peux pas, ça serait trop beau quoi de dire ah mais tu sais tout est lumière. Non. C'est vrai que parfois, je regarde, surtout quand je regarde d'ailleurs les infos et ce qui se passe dans le monde, j'ai parfois l'impression que notre humanité, elle est profondément malade. Et parfois, je manque de foi, tu vois. C'est compliqué. Et le truc, c'est qu'en fait, au même temps, j'ai une foi inébranlable comment je pourrais dire ? Pour moi, c'est une évidence que l'univers est infiniment beau, intelligent, plein de beauté, quoi. Pour moi, à chaque fois, en fait, voilà, quand je vois l'humanité et que je perds espoir... J'ai tendance, en fait, à me dire, OK, mais regarde le monde, regarde le ciel, regarde les arbres, regarde les fleurs, regarde tes enfants, quoi. Regarde même un être humain juste quand il est en train de marcher et de s'asseoir. Regarde comme c'est magnifique, quoi. C'est déjà tellement beau. Tout est parfait, en fait. Donc, il y a un côté où quand je deviens trop humaine, justement, quand je suis trop emberlificotée par des questions humaines, je suis renvoyée un peu à la solitude. Je me sens profondément seule. Et du coup, pour sortir de ça, je m'ancre sur le monde. Ce qui n'est pas que humain, d'ailleurs. J'ai besoin de ciel. J'ai besoin d'arbres. J'ai besoin d'insectes. J'ai besoin d'animaux. J'ai besoin de rivières. Et c'est quand je me branche, en fait, sur ce qui est non humain, la foi revient. C'est très bizarre. Et le truc, c'est qu'évidemment, je me dis, attends, mais on fait partie de ça. On participe à ça. On n'est pas fondamentalement mauvais. On n'est pas fondamentalement coupé du monde. On fait partie du monde. Donc... si on fait partie du monde, c'est parce qu'il y a, sans aucun doute, de l'espoir. Tu vois ? C'est comme ça, en fait, que je me raisonne. Pour sortir parfois des endroits sombres où je peux aller, quoi. Tu vois ? Et c'est quelque chose de très intime parce que je prétends absolument pas... avoir tout compris ou être quelqu'un qui, voilà, tout baigne. C'est tellement pas ça, c'est tellement pas vrai, quoi. Je me considère vraiment parfois de pédaler dans la semoule comme beaucoup de monde, tu vois. Mais disons que pour moi, mon point d'appui, c'est... Ouais, c'est le cosmos, quoi. C'est vraiment cette question de se dire, OK, on est inséré dans quelque chose de tellement vaste, de tellement beau. Parfois, juste de regarder la lumière m'aide. Tu vois, quand il y a de la lumière en journée, parce qu'en Île-de-France, parfois, c'est très gris aussi. Ça aussi, ça joue beaucoup sur mes états d'esprit. Mais par exemple, quand je vois, par exemple, un rayon de lumière, je me dis, mais en fait, dans ce rayon de lumière, il y a le cœur du soleil, quoi. Un rayon de lumière, apparemment, c'est quoi déjà la chose ? C'est-à-dire que ça prend en fait un rayon de soleil de partir, disons, de la surface du soleil et d'arriver sur Terre et donc d'arriver sur ma rétine, donc pour que je puisse voir, 8 minutes. Il a parcouru 8 minutes d'espace pour être ici, quoi. Et il s'est généré au cœur d'une étoile, quoi. Et ça, c'est juste d'un point de vue hyper matériel, quoi. Juste matériellement, l'univers dans lequel on est inséré est extraordinaire. Et en plus de ça, tu dis, mais si en plus je rajoute à cette dinguerie que c'est que l'existence, que c'est que la création, si en plus je me dis qu'il y a une âme, que le monde a une âme, ce que les anciens appelaient l'anima mundi, que un arbre a une intériorité, un oiseau a une intériorité, un caillou a une intériorité, un grain de sable contient des mondes. En fait, à partir du moment où tu commences à te dire qu'en plus de tout ça, il existe une dimension de moi, quelque part, évidemment, je le traduis avec des mots très humains, ça. Mais moi, je considère, c'est quasiment comme si tout avait donc cette intériorité, cette âme, c'est comme une qualité, quoi. Tout a une qualité. Tout, absolument tout. C'est très difficile de rester, en fait, dans un endroit sombre quand tu commences à te rappeler de ça. Parce qu'en fait, c'est une question de se rappeler. C'est quasiment que, quelque part, pour moi, le désespoir, c'est quand on oublie. Et l'espoir, c'est quand on se rappelle du miracle, tu vois. Et donc, mais c'est un mouvement de balancier, c'est normal que ça soit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout est en mouvement de toute façon, comme le propre de notre existence, c'est le mouvement, c'est l'impermanence, de comprendre que, ben ouais, c'est normal que parfois le pendule, il aille du côté sombre et qu'on perde espoir et qu'on se sente profondément aliéné et seul. Mais en fait, c'est grâce à ce mouvement-là que petit à petit, on peut revenir en fait du côté lumineux et de comprendre qu'en fait, tout est unifié, que tout est parfait. Que tout est parfait, quoi. Donc, mais c'est un pendule constant. C'est constant, constant, constant. Chez moi, en tout cas, j'ai identifié ça. Et parmi mes façons de m'en sortir, parfois quand je vais trop du côté sombre des choses et que je perds espoir, me dire, ouais, mais attends, mais rappelle-toi. Juste rappelle-toi. Regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que tu voudrais qu'elles soient. Elles sont. Tu vois ? Donc ça, pour moi, c'est un peu ma façon de vivre la foi. Et quand je fais des lectures de thèmes, quand je suis face à quelqu'un et son ciel... Il a toujours, en fait, cet enchantement. Je pars toujours avec un regard enchanté. Jamais, jamais, ça m'est jamais arrivé. Même parfois quand je peux voir qu'il y a un thème, par exemple, où les thématiques vont être particulièrement difficiles, denses, fortes. Et effectivement, parfois, les gens, ils vont avoir un vécu qui est hyper challengeant, quoi. Parfois, tu vois ça vraiment clairement, d'ailleurs, dans le ciel, quoi. Tu dis, waouh, le challenge, là, il est grand, quoi. Ben, j'ai toujours ce mouvement de me dire, mais comment cette personne va vivre ça ? Est-ce qu'elle a trouvé... parce qu'il y a toujours dans ce grand challenge des grands points de force aussi. Souvent, d'ailleurs, on constate ça, que... Un ciel qui serait un ciel... c'est drôle parce que c'est bien d'utiliser des images, quoi. Parfois, on va être face à des ciels qui sont... avec des ouragans, quoi, des choses extrêmement fortes. Eh ben, cette même force qui peut aller vers parfois des choses qui vont être très difficiles, bah, c'est aussi la même force qui permet à cette personne de résister aussi. Genre, et du coup, t'es face à des personnes qui sont des montagnes, quoi, parfois. Et ça, c'est quelque chose à chaque fois qui m'enchante, quoi. Je me dis, chaque être humain, c'est un monde. C'est un monde. Je peux pas partir du principe que juste parce que je peux voir qu'il y a un challenge, que je sais comment la personne va réagir, absolument pas, parce que la personne, elle reste libre. Et souvent, je suis admirative de comment les gens composent avec leur... avec leur vie, avec leur vécu, avec qui elles sont, quoi. Et c'est une construction constante, quoi. C'est magnifique. Donc, moi, je... Une fois de plus, quoi, je remercie toujours les gens. Je remercie vraiment les gens, quoi. Parce que je me dis, ben, grâce à vous, je peux voir que l'humanité... C'est comme si c'était des fenêtres ouvertes sur l'humanité. Et je pense beaucoup à Balzac, tu sais, la comédie humaine. Mais la comédie humaine dans le sens vraiment de... Tu peux jamais savoir totalement comment quelqu'un va réagir par rapport à quelque chose. Et ça, ça me donne de l'espoir. Parce que les gens, souvent, ils te prouvent que c'est beaucoup plus vaste, que c'est beaucoup plus créatif. La manifestation des archétypes. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai compris. C'est que quand on est astrologue, on est en train de parler d'archétypes, on est en train de parler de symboles. Et plus on est proche du symbole, mieux on se porte. Il faut vraiment rester au niveau symbolique quand on lit le thème de quelqu'un. Mais après, de poser la question, alors, comment ça s'est manifesté? Parce que le possible de manifestation d'un symbole est tellement riche qu'en fait, tu apprends, mais tout le temps. Tu te dis, mais comme la vie est inventive. Tu vois, et les personnes participent de ça, donc c'est magnifique, quoi. Donc pour moi, la foi, c'est comprendre à quel point la vie est créative, quoi. Et ça me donne de l'espoir. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me permet de dire, ok, c'est bon, sors de tes nuages, là. N'oublie pas que les étoiles sont toujours là. N'oublie pas que le ciel bleu est toujours là. C'est juste que, bon, voilà, c'est normal. T'as tes nuages intérieurs, tes peurs, tes mécanismes, tes blocages, parfois peuvent te donner l'illusion qu'il n'y a pas de magnificence. Mais cette magnificence, elle est toujours là. Juste rappelle-toi.
Est-ce que t'as déjà eu des déclics dans ta vie? Par rapport à la foi.
Ouais. J'ai notamment eu un rêve. Un rêve qui était... D'ailleurs, même quand je me suis réveillée, je regardais mon mari, je me disais, mais je fais un rêve incroyable. En fait, j'ai fait deux rêves dans ma vie, je dirais, qui étaient des rêves... un peu ce moment, voilà, de Eureka. Tu sais, tout d'un coup, tu dis, waouh, wow, quel cadeau, quoi. Merci. Un rêve qui est donc ce rêve-là où j'étais, en fait, c'était impressionnant comme sensation parce que j'étais en train de choir dans le noir absolu. J'étais en train de tomber dans le noir absolu. À tel point que j'étais le noir absolu. Il y avait quasiment plus d'ego, en fait. C'était impressionnant. J'avais vraiment l'impression de me fondre dans cette sorte de noir absolu. Et une voix, alors que mais en même temps, je sentais que j'étais en train de tomber. J'étais en train de tomber dans quelque chose, voilà, il n'y avait pas de fond, quoi, en fait. C'était, voilà. Peut-être la nuit obscure, je ne sais rien, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me fait beaucoup. Quand j'ai entendu parler de la nuit obscure, je me suis dit, ah tiens, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas loin de ça. C'était ce rêve. Et dans ce rêve, j'ai écouté une voix qui disait, la vraie connaissance est non médiée. La vraie connaissance est non médiée. Et là, quand je me réveille, je regarde mon mari, je dis, mais j'ai eu ce rêve. Et là, ce qui est génial, c'est qu'avec mon mari, il dit, ah ! René Guénon, il a dit un truc très similaire dans le livre XY, machin, truc mûche. Et moi, j'étais genre, ah bon ? Ah bon ? Il a écrit ça quelque part. Il dit, ouais. Et là, du coup, il m'a trouvé la ref, il m'a trouvé le livre. Et il m'a dit, Paula, c'est voilà, ça fait partie, disons, du fond, je sais pas, spirituel, traditionnel. C'est assez pas mal quand même ton rêve. Et là, je dis ouais, parce qu'en fait, la sensation, ça veut dire quoi, voilà. Parce qu'après, on va essayer de comprendre, quand même. Et en fait, la vraie connaissance est non médiée. Ce que j'ai compris, en fait, du rêve, c'est que... Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti dans le rêve. Et après, évidemment, je mentalise pour pouvoir l'expliquer. Et donc, évidemment, on s'éloigne. Mais c'est l'idée de... Pour connaître intimement quelque chose, tu ne dois pas avoir de médiation. C'est comme si tu mangeais un savoir. Tu as besoin d'intégrer quelque chose. Et en fait, quand tu intègres quelque chose, cette chose fait partie de toi. Donc, ça devient une vraie connaissance. Tant que tu passes par l'écriture, la parole, le mental, c'est des médiateurs. Ta main. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas être l'identification totale avec la connaissance n'est pas la connaissance. Tu te rapproches, mais c'est pas ça. C'est quand même dingue, quand même. Donc j'ai lu ça.
Ça me fait penser au principe du yoga, en fait. Yoga, ça veut dire union, c'est l'union du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tous les principes du yoga, c'est comment réussir à combiner ces trois sphères, le corps, le cœur et l'esprit, pour avoir une intégration de soi et du monde. Parce qu'on ne peut pas travailler que la psyché, on ne peut pas travailler que l'émotionnel, on ne peut pas travailler que le corps. Et là, j'ai l'impression, quand tu me racontes ce rêve, que c'est dans ton corps qu'il y a eu l'intégration, la digestion dont tu parlais tout à l'heure, que peut-être tu t'étais nourri, tu avais mangé des choses et qu'à ce moment-là, paf, il y a eu digestion et ce eureka qui a surgi à cet instant.
Et c'est fou parce que j'avais vraiment ce sentiment, tu vois, de plus avoir de peau. Tu vois, t'es complètement fondu, en fait, dans quelque chose.
Le samadhi, ça s'appelle chez les yogis. L'absence d'individualité, quoi.
Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai fait une session de yoga en Corse avec Natacha. Et en fait, j'ai eu ça. Je sentais plus, en fait, ni mes paumes, de mains et de pieds. C'est quasiment comme si j'avais un continuum, en fait. C'était incroyable. Et je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc? Ça, parce que tout de suite, tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est génial, c'était extraordinaire. Mais c'est le genre de choses que tu ne peux. Genre, je sais pas, effectivement, c'est un don, c'est une grâce, c'est un truc qui te tombe dessus. Parce que tu peux pas du tout le. À mes yeux, peut-être je me trompe, mais. C'est quelque chose, c'est une sorte de... On appelle ça la surabondance de la grâce, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, t'as un truc qui t'est donné. C'est pas parce que t'es plus méritant ou parce que t'as compris un truc. C'est même pas ça, quoi. C'est juste qu'en fait... Voilà, quoi. Je sais pas. Tu vois, t'as un rayon de soleil qui tombe sur toi. Et là, tu dis, ouh, c'est sympa. Mais du coup, évidemment, t'arrives pas à retenir ça. T'arrives pas à maintenir ça. Peut-être que... Effectivement, avec des pratiques, avec une assaise, avec un côté d'une pratique, tout simplement, peut-être qu'on arrive plus à stabiliser ça. Mais moi, comme je n'ai pas encore cette capacité-là, je suis encore trop changeante. J'ai un peu des sortes de moments de grâce comme ça, tu vois, mais qu'effectivement, je chéris et je garde comme des vrais cadeaux, quoi. Donc, ce rêve, cette expérience que j'ai eue en faisant du yoga. Et puis, un deuxième rêve que j'ai fait, qui m'a fait beaucoup penser, tu sais, à cette chanson de Beatles, The Fool on the Hill, que j'adore d'ailleurs. Et dans ce rêve, j'étais en fait à lisière d'une forêt et je voyais un mendiant. Et en fait, je voyais le mendiant et je me disais... Mais ce mendiant, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Et en fait, je me rapproche de lui. Et en me rapprochant de lui, je me rends compte, je dis, mais attends, mais c'est pas du tout un mendiant. C'est un sage. Et en fait, à ce moment-là, il me regarde et il me dit, est-ce que tu veux voir le monde comme je le vois? Et là, je dis, ouais. OK. Et là, je rentre dans son, par ses yeux d'ailleurs, et je me loge comme ça en lui. Et là, il lève la tête. Donc, je suis lui, en fait. Je suis en lui et je peux voir le monde comme lui le voit. Il lève les yeux comme ça au ciel. Et tout d'un coup, je fais comme une sorte d'ascension. Je monte jusqu'aux étoiles. Et je vois, en fait, à la fois... C'était incroyable comme rêve. Je voyais tout ce qui se passait dans le monde de façon simultanée. Et je voyais le ciel, mais en mode hyper rapide... Et je voyais, en fait, tout tourner sur soi, en fait. Et c'est comme si c'était une sorte de vision panoptique totale, en fait, de tout, au même temps. C'était très bizarre. Et là, c'est « Waouh !» Et là, bon, voilà, c'était impressionnant. C'est comme si je voyais tout en simultané, en speed, tu vois, comme si c'était trop vite, tu sais. Mais en même temps, ça créa aussi une image de... C'est très drôle parce que ça allait très vite et en même temps, c'était statique. C'était tout au même temps. Et puis, je me suis réveillée, j'ai raconté ça à mon mari. Il m'a dit, punaise, tu fais des super rêves. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas tous les jours. Hein, mais quand je les fais, ils sont pas mal. Donc voilà, donc j'ai eu des super rêves, ouais. J'ai eu ces deux rêves, en tout cas, ils sont top.
Ils ont vraiment eu un impact sur ta foi, du coup.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait, tu vis des choses comme ça, tu participes à quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, d'ailleurs, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me rends compte, où je me rappelle que je participe à quelque chose, c'est bon. C'est quand j'oublie, en fait... que je participe à quelque chose que ça va pas. Donc, tu vois, et d'ailleurs, ce sentiment d'aliénation, pour moi, c'est le sentiment d'aliénation qui est la plus grande illusion. Et je suis, comme la plupart des gens, hein, victime, si tu veux, de cette illusion. Et parfois, cette illusion, elle a l'air vraiment très, très, très réelle, tu vois. Et c'est justement dire non, 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 tu te trompes. Mais c'est compliqué, parfois. Mm-hmm. Donc, voilà.
Je pense que tu le savais pas, Paula, mais en fait, t'es une grande yogini.
Ah Non, justement, parce que tu parles justement de cette intégration du corps, du cœur et de l'esprit, et mon corps, il est un peu en souffrance, donc non, il y a encore du boulot là, il y a du boulot, et puis toujours, manque de confiance, parfois ce regard, tu vois, un peu sombre sur les choses, un peu de, voilà, quand on regarde l'état du monde et qu'on regarde la folie des gens, de certaines personnes qui sont censées diriger ce monde, on peut vraiment perdre espoir. Donc, non, je suis loin d'être, d'avoir une source en tout cas stable. Tu vois, parce que je me dis, je pense que les personnes en fait qui atteignent, mais peut-être c'est mes projections, peut-être je dis n'importe quoi, hein. Mais, par exemple, je pense à une Amanda Moy. D'être dans cet état de plénitude tout le temps. Waouh! Tu vois, c'est être en état d'extase constante tout le temps. Je trouve ça impressionnant, tu vois. Moi, je suis absolument pas là. Tu vois, non.
Parce qu'on est incarné sur Terre. Et
mais elle était incarnée aussi. Comment t'expliques une Amanda Moy? Comment tu expliques une femme comme ça? Elle était tout le temps connectée, quoi. Et elle était une source de lumière, quoi. Preuve, tu le vois d'ailleurs avec les quelques photos qu'il y a d'elle, les yeux qu'elle avait, quoi. C'était des torches. Mais c'est impressionnant, tu vois. Donc effectivement, et après c'est ça aussi, je me dis que par... Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on a des expériences dans lesquelles on sent qu'effectivement on est en train de se dépersonnaliser, on flippe. Et c'est le flip en fait qui nous fait revenir ici. Donc d'accepter de se dépersonnaliser, d'accepter de se personnaliser, alors, que l'ego puisse admettre l'extinction de lui-même, oh. Moi, je reste admirative. Hein. Je reste admirative. Je pense que je comprends un tout petit peu le mécanisme. Tu vas comprendre, d'ailleurs, quel mot. J'ai pu vivre un tout petit peu cette réalité-là, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir trompé mon petit orteil, tu vois, mais de rien, quoi, tu vois, pour pouvoir un petit peu appiger tout petit peu le truc, oh, de plonger carrément. Waouh! Moi, je suis admirative. Moi, je suis admirative. Si effectivement, je sais pas, dans ma vie, je sais pas, la façon dont les choses vont évoluer, je sais rien. Mais si un jour, je plonge comme ça, ce serait hallucinant. Ce serait incroyable. Incroyable. Ce serait incroyable. C'est la seule chose que j'ai à dire, waouh. Ce serait incroyable. Mais bon, voilà, quoi, tu vois, je suis bien loin, quoi. Je pense que je parle encore beaucoup de penser, comprendre,
mental,
tu vois, beaucoup de mental. Donc,
ton conseil à toi pour te rapprocher de la foi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, au monde, aux gens, pour se rapprocher de la foi, ce serait quoi ?
C'est que t'as pas besoin de te rapprocher. Elle est déjà là. Et le truc, c'est que c'est ça la chose. C'est nous qui nous éloignons, quoi. Tu vois ? Mais c'est là. Et c'est effectivement... Je pense à Blake, par exemple, le poète, qui disait on peut voir le monde dans un grain de sable. C'est tellement vrai. Tu vois ? Pour se rapprocher de la foi, il faut juste être. Soi. On lève le mental, justement. On lève. Tu vois, et comprend que c'est tellement vaste. Ça ne sera jamais compréhensible. La beauté du mystère, elle est là, quoi. N'essaye pas de comprendre. Participe. Participe. Et plus tu es dans la participation de ça... Ben, moins t'as peur, moins tu doutes. Et ça te console. Il y a aussi cette dimension aussi, je trouve. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est cette dimension de consolation. Tu vois, les choses les plus simples peuvent te consoler à partir du moment où t'acceptes que tu te rends, que tu t'abandonnes. Et c'est magnifique. Donc... Ce serait un peu mon conseil. Regardez du sable, s'il vous plaît.
Merci, Paula. Merci pour tout.
Merci à toi, ma belle. Merci infiniment pour cette opportunité. Merci.
Merci.
Et voilà, c'était notre dernier épisode avec cette femme extraordinaire, Paula Van Grut. Paula, je te remercie du fond du cœur pour avoir partagé avec autant d'amour, d'authenticité et d'intensité tout ce que tu nous as dit au long de ce triptyque. Et je vous remercie, vous également, les auditeurs et les auditrices, pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos retours magnifiques. Les prochains épisodes qui vont suivre vont eux aussi être absolument extraordinaires, aux côtés d'une femme qui est très très chère à mon cœur. Alors je vous dis à très bientôt, au cœur du Lotus.